France Inter.
Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, départ et un grand malaise. Menacé de mort après une altercation sur le voile avec une élève, le proviseur d'un lycée parisien quitte ses fonctions. Le monde enseignant, sous le choc, dénonce un climat délétère dans l'éducation. Témoignage dans un instant. La une ce matin, c'est aussi Gabriel Attal qui veut remettre les chômeurs au travail. Une nouvelle réforme de l'assurance chômage sera sans doute annoncée ce soir. La numéro 2 de la liste RN pour les européennes gênée aux entournures après les révélations sur ses SMS envoyés à Emmanuel Macron avant le remaniement, ou encore 50 km/h sur l'autoroute A7 entre Vienne et Lyon, ça grince sur l'asphalte. À 8h20, qui est donc votre invité Nicolas?
Eh bien, on va le demander à Léa Salamé. Bonjour Léa.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Avec nous tout à l'heure.
Figure montante de la droite, il publie les leçons de Pompidou alors qu'on va célébrer les 50 ans de la disparition de l'ancien président. Se compare-t-il à Pompidou? En tout cas, il se préparait pour 2027. David Lisnard, maire LR de Cannes et président de l'Association des maires de France, est notre invité à 8h20.
Et on attend vos questions. 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est un départ sous la menace, observé avec effarement sans doute par tous les enseignants et chefs d'établissement de France. Le proviseur du lycée Ravel dans l'Est de Paris a donc quitté ses fonctions à quelques mois de la retraite, menacé de mort depuis début février après avoir demandé à une élève de retirer son voile en vertu de la loi. La jeune fille l'accuse alors de l'avoir poussée et frappée et la machine s'emballe sur les réseaux sociaux jusqu'à ce départ anticipé, annoncé hier pour des raisons de sécurité. Le monde à l'envers pour les enseignants du lycée interrogés à la sortie hier soir. Boris Loumagne, leur malaise est immense.
On l'appellera Arnaud. Il est professeur au lycée Ravel et il prend sur lui pour nous parler. On le sent tendu, il pèse chaque mot quand il s'agit de défendre son proviseur.
Je suis malheureux. Cette histoire est une histoire grave. A abouti à ça alors que l'inverse aurait dû se passer.
En clair, c'est le proviseur qui paie les pots cassés et non l'élève, mais Arnaud n'en dira pas plus.
Non.
Ah, d'accord.
D'autres professeurs font part de leur colère à la sortie du lycée.
Nous on est choqués, on trouve ça lamentable, mais si on peut pas le protéger autrement, c'est ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on sait.
Et puis, selon cette autre enseignante, ce n'est pas le remplacement du proviseur qui apaisera ce climat délétère entre certains élèves et leurs professeurs.
On a tous l'impression d'une tendance qui ne va pas dans le bon sens, qu'il faille, pour demander qu'une règle soit appliquée, qu'il faille rentrer dans un conflit qui ne devrait pas l'être. On se demande si on peut faire respecter la loi dans l'établissement ou si ça va se retourner contre nous avec des propos complètement inventés et complètement dingues.
Et comme si ça ne suffisait pas, de nouvelles tensions sont apparues ces derniers jours après que plusieurs fausses alertes à la bombe ont visé le lycée Ravel.
La ministre de l'Éducation Nicole Belloubet s'était rendue sur place pour soutenir le proviseur au début du mois sans réussir à enrayer la vague de menaces.
Il est 8h04, anticipé le versement des salaires du mois de mars.
Message passé par la Banque de France aux employeurs, car les virements bancaires seront suspendus à partir de jeudi soir pour le week-end de Pâques qui tombe au mauvais moment pour les transferts d'argent cette année, donc entre vendredi et lundi. Pour ceux qui ne touchent pas de salaire mais des indemnisations de Pôle emploi, les temps seront-ils plus difficiles? Gabriel Attal mise tout désormais sur le travail et la rigueur, remettre les chômeurs dans l'emploi et faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Il en sera question aujourd'hui au cours d'un séminaire gouvernemental avant une annonce aux 20h de TF1 ce soir. Simon Le Baron, c'est parti pour une nouvelle réforme de l'assurance chômage.
C'est la troisième fois que le gouvernement va durcir les droits des chômeurs après 2019 et 2023. Il a déjà raboté la durée maximale d'indemnisation, il a déjà allongé le temps qu'il faut avoir travaillé pour avoir droit à des allocations. Il veut aller encore plus loin. L'exécutif n'y voit que des avantages, des économies immédiates, des rentrées d'argent grâce aux impôts de ces chômeurs incités à reprendre un emploi et un discours politique censé répondre aux classes moyennes qui jugeraient le système trop généreux avec ceux qui ne travaillent pas. Pour faire bonne mesure, le Premier ministre devrait aussi avancer ce soir des pistes pour encourager les entreprises à tirer les salaires vers le haut, à assouplir les règles sur le télétravail ou à mieux aménager les emplois du temps. Mais à quelques semaines du verdict des agences de notation sur la dette française, l'urgence est à la réduction des dépenses sociales. C'est bien pour cela que Gabriel Attal reprend la main sans attendre la fin des discussions entre syndicats et patronats qui devaient se terminer hier et qui ont été prolongées jusqu'au 8 avril.
Simon Le Baron, question emploi du temps, ça se précise. Pour la semaine en 4 jours dans les administrations, l'expérimentation va commencer au printemps pour au moins un an, sans baisse du temps de travail et sur la base du volontariat, selon une note de la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique. A-t-elle rejoint le Rassemblement National par dépit politique? L'essayiste Malika Sorel, fraîchement nommée numéro 2 de la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes, avait proposé ses services à Emmanuel Macron avant le remaniement. Plusieurs SMS envoyés révèlent le canard enchaîné, ce qui vous a été confirmé, Élodie Forêt, d'où un certain embarras hier soir aux états généraux de l'immigration organisés par le RN à Paris.
Jordan Bardella ne cachait pas ce week-end sa fierté d'avoir désormais Malika Sorel à ses côtés. Hier soir, changement d'ambiance et gêne palpable. Nous ne lui avons pas demandé d'explication, balait son entourage, tandis qu'une députée tente l'humour. Souvent, sourit-elle, femme varie. Malika Sorel, elle, arrive sur scène, adresse un V de la victoire au public. Puis, laissée seule face aux médias, reconnaît des échanges avec le président dès le mois de décembre.
J'ai dit et j'assume d'avoir voulu servir la France, en particulier sur les questions de l'éducation. Ce que j'ai constaté, c'est que mes idées, Emmanuel Macron ne veut pas les porter.
Mais si le président vous avait proposé un ministère, qu'auriez-vous fait? Relancent les journalistes présents. Malika Sorel esquive et s'agace.
J'ai répondu à vos questions. Je parle très bien le français. Je suis persuadée qu'en réécoutant, vous pourrez déduire tout ce que j'ai voulu vous transmettre comme information.
L'essayiste est numéro 2 de la liste RN, finalement. Filtré par l'ex-attaché de presse de Marine Le Pen venu à sa rescousse, Jordan Bardella, lui, est déjà loin, sans un mot pour défendre sa nouvelle recrue.
Élodie Forêt, garde à vue levée en Alsace dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina au mois de septembre. Les trois personnes entendues hier ont été relâchées dans la nuit, sans éléments incriminants.
Il est 8h08. Connaissez-vous les maisons d'accompagnement pour les patients en fin de vie?
Non, et c'est normal, il n'y en a qu'une seule en France, à mi-chemin entre l'hôpital et le domicile. Le gouvernement voudrait développer ces structures dans le cadre de son plan sur les soins palliatifs. Il pourrait donc s'inspirer de ce qui se fait dans le Tarn, à la maison Astrobal. Reportage Alice Cachaner.
Dans cette colocation, ils sont une dizaine d'habitants à partager la cuisine, le salon ou encore un grand patio baigné de lumière. Dans sa chambre, Jocelyne se repose quelques instants.
J'ai 72 ans, retraité, cancer, fin de vie. J'ai pas d'autre endroit où aller.
Ici, Jocelyne peut compter sur la compagnie des autres colocataires, mais aussi des maîtresses de maison, auxiliaires de vie, médecins, infirmières à domicile. Une solution de répit pour les patients en fin de vie, créée par Delphine Calicis.
Quand on ne peut plus rester à domicile parce que on est épuisé, on est seul. Aujourd'hui, la seule solution qu'on peut avoir, ce sont les EHPAD ou l'hôpital. Mais en général, à l'hôpital, on ne garde pas les gens.
Mais la maison n'accueille pas uniquement des patients en soins palliatifs. Parmi les locataires, des personnes handicapées, des personnes âgées, plus en forme, comme Odette, 95 ans.
Ils sont malades, ils ont tous des soucis, tout ça, mais moi je suis contente de les aider.
Par le passé, d'autres maisons d'accompagnement ont été créées en France, mais elles ont toutes fermé, faute de cadre juridique et de modèle économique viable.
On a vu passer toutes les institutions, on n'a toujours aucun financement pour nous aider. J'ai pas trop envie qu'ici, cette maison, on nous donne des financements pour accompagner des gens vers le suicide assisté. Voilà, ça va pas trop ensemble.
Aujourd'hui, cette maison d'accompagnement existe grâce à des aides privées et au loyer, 1300 euros que verse chaque colocataire par mois.
Alice Cachaner dans la maison Astrolab. Produire plus pour tirer plus, formule d'une économie de guerre assumée par l'État pour aider l'Ukraine. En voici un nouvel exemple, la poudre produite par Eurinco à Bergerac. La production va doubler. Reportage Eric Biegala.
Le site de Bergerac est immense, autour de 150 hectares. À première vue, une paie pas de mine, vieux bâtiments industriels, cheminées Decati. Mais c'est là qu'on produit les composants de base des poudres, notamment la nitrocellulose. Sur cette ligne de production largement robotisée, on produit des charges modulaires de nitrocellulose pour les canons d'artillerie, comme le César. Une charge propulse un obus à 5 km, 6 charges, on peut en mettre 6 sur un César, propulse le même projectile à 40 km. Et là-dessus, l'entreprise a mis les bouchées doubles, résume son PDG Thierry Francou.
Aujourd'hui, nous faisons 500 000 charges, 90 000 coups complets. Nous allons doubler et nous allons encore aussi augmenter la performance de ces lignes. Globalement, nous allons monter à 1 200 000 charges, c'est-à-dire 200 000 coups complets sur cette usine de Bergerac.
200 000 coups de canon par an, à terme, dont 80% seront destinés à l'Ukraine, la performance industrielle ravit le délégué général à l'armement, Emmanuel Kiva, qui remarque que ces usines d'armement sont largement reproductibles.
C'est un modèle aussi pour d'autres pays qui veulent avoir les mêmes usines. Donc là, on est vraiment sur des nouvelles technologies appliquées à de la production. Le niveau de robotisation qu'on a ici est assez remarquable. Donc robotisation, optimisation des chaînes, optimisation des cadences, et donc bientôt une usine qui nous permettra de doubler la production.
Actuellement, la France ne peut livrer à l'Ukraine que 3000 obus par mois avec leur charge. Dans un an, ce sera au moins deux fois plus.
Éric Biégala dans la moiteur de la forêt amazonienne, Emmanuel Macron en bras de chemise et Lula qui prend des photos de l'instant symbolique où le président français remet la Légion d'honneur au chef autochtone Raoni, grand défenseur de la forêt, image nocturne de la première visite d'un chef d'État au Brésil depuis 11 ans. En France, les tempêtes et les inondations auront coûté 6,5 milliards d'euros aux assureurs. L'an dernier, ils ont fait les comptes et s'inquiètent du changement climatique. 2023 est la troisième année la plus grave en termes de sinistres après 1999 et 2022. On part sur l'autoroute maintenant. Nous voilà sur l'A7 entre Vienne et Lyon, où la préfecture a baissé la vitesse à 50 km/h depuis une semaine pour fluidifier le trafic. 8 km le pied sur le frein, difficile à comprendre pour les automobilistes et impossible à respecter pour le maire de Vienne, Christophe Vincent.
De 7h à 9h30, les automobilistes en route vers Lyon ne doivent pas dépasser les 50 km/h. Entre Ternay et Fézin, le maire LR de Vienne, Thierry Kovacs, a tenté en vain de respecter la limitation sur ce tronçon de 8 km.
Moi, je ne suis pas arrivé à rouler à moins de 62 km/h en étant klaxonné par l'ensemble des voitures, camions qui doublaient. Il faut surtout une vitesse qui soit adaptée au profil de la voirie. 50 km/h sur une deux fois trois voies, c'est tout simplement impossible.
Sur les 32 km qui séparent Vienne de Lyon, se succèdent 4 restrictions de vitesse, incohérents et dangereux, estiment les usagers.
Ça freine tout, ça crée des bouchons. Pour moi, c'est une aberration. D'alterner un 50, 70, 90, 110, pour moi, c'est un non-sens. Les principaux accidents, c'est quand ça freine sur l'autoroute d'une manière inopportune.
C'est juste une usine à fric, en fait, tout simplement. On est quand même sur une autoroute, 50 sur une autoroute. Je pense que ça peut être très accidentogène. C'est l'État français, quoi. Avec toutes ces limitations, on s'en sort pas.
Le maire de Vienne demande à la préfète de revoir sa copie. Pour l'instant, sans succès. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Il faudra faire beaucoup plus à l'Euro, dit Didier Deschamps, même si ses hommes ont gagné hier soir 3-2 face au Chili en match amical. Le début de la rencontre a encore déçu. Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani, auteurs d'un but et d'une passe décisive, ont subi les sifflets du Vélodrome, où ils seront de nouveau dimanche avec le PSG face à l'OM. Pour l'Euro, les Bleus ont le nom de leur troisième adversaire du premier tour, ce sera la Pologne, qualifiée hier soir en match de barrage. Et puis en pleine guerre, l'équipe d'Ukraine a validé son billet en battant l'Islande. Ce sera l'une des stars tricolores des Jeux de Paris. Le nageur Léon Marchand, étudiant aux États-Unis, participe à partir d'aujourd'hui aux finales universitaires, une vraie compétition la plus importante et la plus prestigieuse là-bas. 40 équipes s'affrontent pour le titre à Indianapolis. Léon Marchand concourt pour son université de l'Arizona. Reportage sur place, Jérôme Val.
Le natatorium de l'université de l'Indiana, une énorme bâtisse au milieu d'un immense campus, et 235 nageurs sélectionnés partent dans cette piscine à la quête d'un titre que toutes les universités américaines convoitent, comme le raconte Luigi Riva, étudiant à la Brigham Young dans l'Utah.
C'est la plus importante compétition pour les universités. Il y a une vraie rivalité entre elles pour avoir le titre. C'est hyper dur de se qualifier, mais c'est excitant. En plus, on nage à côté de Léon Marchand, tout le monde le regarde.
Léon Marchand, la star de ces championnats, ravi une nouvelle fois d'en découdre sous les couleurs de son université de Tempe dans l'Arizona, comme il nous l'a confié il y a quelques jours.
Ça va vachement aider l'université qui gagne, en fait, pour la réputation, pour l'image du sport, etc. Je nage pas que pour moi, je nage vraiment pour quelque chose de plus grand, quoi. Je nage pour l'équipe, je vais regarder toutes les finales, toutes les séries, je vais encourager tous mes potes.
Ces finales universitaires, les NCAA, sont un véritable phénomène. Le nageur de Marseille, Clément Secchi, les a disputées l'an passé.
C'est une compète où il n'y a que des hommes, et voilà, il y a beaucoup de testostérone. C'est des Américains, donc ça gueule et ça va pas chercher midi à 14h.
Il y a un an, Léon Marchand avait tout gagné et son université avait fini deuxième. Cette fois, le Toulousain veut faire encore mieux.
Jérôme Val à Indianapolis pour France Inter. Et l'on apprend ce matin que c'est le jardin des Tuileries qui a été choisi pour accueillir la flamme olympique. C'est le sculpteur des courbes et de l'épure, Brancusi, à l'honneur au Centre Pompidou. Rétrospective faite de ses œuvres de métal, de dessins, de photos, de vidéos sur des notes d'Éric Satie. son amie. Nous voici Isabelle Pasquier dans son atelier reconstitué.
Dans l'atelier de Brancusi, le monde est blanc, sa barbe, sa blouse, son immense oiseau stylisé en plein envol et ses mains qui taillent la pierre. Car Brancusi, contrairement à Rodin, ne fait pas de moulage. Ce maître de l'abstraction cherche l'épure, l'essence d'un oiseau, d'un baiser, du visage de sa muse endormie où se reflète notre visage. Ariane Coulondre, commissaire de la rétrospective.
Brancusi disait lui-même, moi avec mon moderne, je viens de quelque part de très ancien. Pour réinventer l'art, il fallait revenir aux sources. Les idoles cycladiques, également les têtes ibériques, des œuvres d'art africains qu'il a regardées dans cette direction. Pour réinventer un nouveau langage, il cherche à dépasser les apparences.
Et on s'arrête devant la princesse X qui a fait scandale au Salon des Indépendants en 1920 avec cette question, vierge ou verge ?
Elle est vue comme une sculpture obscène, un phallus dressé. Brancusi s'en défend, il affirme n'avoir souhaité représenter qu'un buste féminin stylisé à l'extrême où les traits du visage ont disparu, où la tête est simplement un ovale, le cou s'est allongé et la poitrine est formée par une grande courbe.
Avec cette ambiguïté entre féminin et masculin, Brancusi semble avoir transcendé la question du genre avec un siècle d'avance.
Voilà, vierge ou verge, vous irez choisir votre option au
notre
centre
camp.
Pompidou, exposition Brancusi jusqu'au 1er juillet.
Merci Florence Paracuelos. 9h20, Léa Salamé reçoit le réalisateur Teddy Lucie Modeste pour son film Pas de vagues en salle aujourd'hui. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et la matinée, Marie-Pierre, reste encore bien maussade.
Et oui Nicolas, d'un côté on a les pluies qui s'évacuent par la façade est avec une masse d'air froid, donc de la neige des 500 mètres des Vosges aux Alpes au Massif Central avec encore les trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange neige-verglas. Sur la façade ouest, on a une nouvelle dépression qui arrive avec de bonnes giboulées et du bon vent jusqu'à 90 km/h et de la neige sur les Pyrénées à 1200 mètres. Seules les régions méditerranéennes restent à l'écart ce matin sous un ciel encore bien nuageux, mais encore s'il pleut, sous le vent. Puis on a des petites gelées, moins à Bagnères-de-Luchon en Haute-Garonne, également en Lozère, pas plus de 2 au Mans comme à Agen. Il fait 4 à Bordeaux, 6 à Paris et Nancy, 8 à Marseille, mais 13 au Cap-Sagrou.
Et un peu plus d'éclaircies cet après-midi.
Ah oui, sous un ciel de traîne qui va se mettre en place sur une large moitié ouest, mais quand même rythmé par des giboulées, des vents toujours forts et des pluies venant de l'ouest vont glisser vers l'est, arrosant à leur passage. Attention, les régions des Hauts-de-France au bassin parisien jusqu'aux Cévennes, sous le vent. Il va continuer de neiger sur les Pyrénées et sur tous les relief de l'Est. Seule la Méditerranée retrouvera son soleil, plus ou moins voilé, excepté en Corse, où les averses seront toujours d'actualité. Et on sera encore en dessous des normales de saison. Nicolas, pas plus de 8 à Épinal, 10 à Deauville, 12 à Paris et Lyon. Comptez 14 à Montpellier, 15 à Toulouse et Bonifacio, mais 17 à Saint-Jean-de-Luz. En se rappelant ce proverbe chinois qui va plaire à Pierre Aski. Le matin, pluie et boue. Le soir, vent et poussière. Hier froid, demain chaud. Voilà comment on voyage, même sans sortir de chez soi.
Magnifique. Merci, Marie-Pierre. Il est 8h19.